Mon cher Richard, comment vas-tu?
Hey Greg, je suis un peu contrarié présentement, je te mentirai pas.
Comment ça?
Ben, écoute, j'ai entendu cette boutade gratuite de ta part à le fait que mes Cowboys sont invaincus parce que effectivement, ils n'ont pas encore joué.
Hey, c'est le cas de toutes les équipes de la NFL, là.
Oui, je sais. Mais écoute, et d'ailleurs, c'est le fun que t'en parles parce que. Et là, je n'allais pas annoncer ça ici en grande pompe cet après-midi, mais je vais le faire parce que tu m'ouvres une porte. Greg, j'ai réalisé, tu sais, souvent le sport, là, tu sais, en tant que partisan, tu sais, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas sur la glace, on ne peut pas rien faire, mais tu sais, des fois, on peut poser des petits gestes qui encouragent l'équipe. Comprends-tu ce que je veux dire?
Ben là, tu parles à un gars qui a monté et marche de l'oratoire trois fois à genoux au printemps.
Exact. Bon, ce genre d'affaires-là. Et là, Greg, je fais juste te dire ça rapidement, puis j'espère que tu es bien assis. Là. C'est une grande décision de ma part, parce que là, je me suis souvenu que les trois Super Bowls des Cowboys, dont je me souviens, dans les années 70, les deux, j'étais trop jeune, je ne m'en souviens pas, mais les trois que j'ai vécu au début des années 90, Greg, j'étais au bac, j'étais à l'université. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, bon, ça, il y a peut-être un lien. Alors, Greg, j'ai pris la décision maintenant de retourner à l'université. Je vais faire un autre bac en danse sociale.
En danse sociale, n'est-ce pas?
Oui, donc ça va être moins difficile que celui que j'ai fait dans les années 90. Mais l'idée, c'est d'encourager et de supporter le club, Greg. Et j'espère que ça va marcher.
Tu vas le faire sur combien d'années maintenant? Parce que les bacs à distance, comme ça, tu peux étirer ça. Là, tu sais, tu peux dire, je fais un cours de danse sociale par
Oui.
année et ça dure 10 ans.
Ouais, ça se peut que je l'échelonne en même temps que mon hypothèque sur 25 ans.
Tu vas repartir la dynastie des Cowboys. Mais notre question du jour, là, toi, tu prends ça comment maintenant? Tu sais, puis surtout dans la NFL, je pense qu'il y a deux sports qu'on prend plus au sérieux. Et c'est et je pense que c'est dû à la rareté des matchs. T'sais, c'est pas rare, mettons, un match de football puis un match de soccer, là, mais je sais que t'es pas un grand fan de soccer, mais les fans de soccer, tu comprends ce que je veux dire? Que du basket ou du baseball ou au baseball, ton équipe perd. Tu sais, comme moi, mes Phillies ont perdu 9-2 hier contre les White Sox. Là. Pas le moment le plus glorieux, mais ils peuvent se reprendre aujourd'hui.
Ouais.
Dans la NFL, c'est un petit peu plus long, puis au soccer aussi. Tu prends ça comment maintenant, toi, là, après des années avec pas de Super Bowl et même des fois des années avec pas d'éliminatoire? Est-ce que chaque défaite te fait autant mal à toi et fois ou tu le prends un petit peu plus avec un terme qu'on aime bien, philosophie?
Écoute, je pense que je me suis amélioré de manière très humble. Écoute, je vais te confier. Je suis dans les confidences hein, cet après-midi. J'espère que t'es heureux de ça.
J'en suis ravi.
Je vais te confier quelque chose. Et là, je suis pas fier de ça. Mais quand j'ai déménagé, je restais d'ailleurs, jadis, pas loin de la station où tu te trouves présentement.
Oui.
Et quand j'ai malheureusement dû déménager, tu sais, tu tasses les meubles, tu tasses les affaires, tu embarques les affaires dans le truck. Puis je me suis rendu compte que dans le sous-sol, il y avait eu quelques violences à l'endroit du mur qui était derrière moi, devant le téléviseur. Alors, Greg, je suis pas fier de ça. J'ai fait, je pense, quelques petits trous dans le Jeep-Rock. Mais je dois te dire que depuis ce temps-là, je me suis beaucoup calmé. Tu sais, le problème avec. Tu sais, quand tu es un partisan des Cowboys, Greg, c'est très. C'est une drôle de situation, parce que là, tu peux pas te plaindre trop. Tu as cinq Super Bowls dans ton histoire. Hein, fait que, tu peux pas te plaindre. Il y a plein de partisans des Bills puis des Bengals qui en ont zéro. Donc, on peut pas se plaindre. Mais les Cowboys, Greg, dans les années récentes, plus ou moins récentes, je te dirais, là, à partir, là, après Troy Aikman, on va dire ça comme ça, c'est une enfilade de défaites les plus douloureuses, les unes après les autres, en séries éliminatoires. Et souvent de manière impossible. T'sais, on a perdu des games en série, Greg. Je savais même pas que c'était possible de perdre demain. Et c'est arrivé assez souvent. Alors, ça a donné ce que ça a donné dans mon ancienne maison. Mais je vais te dire une affaire, Greg. Là, la défaite, le Dez Call It, tu te
Ah,
souviens de
oui, ben oui.
ça? Ça, là, à Green Bay, et Dez Bryant, pour les gens qui ne le sauraient pas, receveur numéro 88. On est en fin de match. Tony Romo lance quatrième essai et un, à peu près aux 40 des Packers. Romo lance une longue passe le long des lignes de touche et Dez Bryant attrape le ballon, tombe à terre. Oups, on va à reprise. Le ballon bouge un peu et on renverse la décision. Puis on dit que la passe n'était pas complète. Puis Greg, sais-tu le pire là-dedans? C'est que 3 ans plus tard, la Ligue nationale de football envoie un courriel pour dire on s'excuse, mais finalement, le catch était bon.
Écoute, ça c'est comme la fameuse interférence de passe qui est arrivée sur... en fait, qui n'est pas arrivée, mais qui est arrivée. C'était dans le match entre les Saints et les Rams. Là. Tout le monde se souvient de ça. Ouais. Le demi de coin avait quasiment comme arraché la tête du receveur avant qu'il touche au ballon. Ça n'a jamais été appelé. Et finalement, vois-tu, c'est les Rams qui sont rendus au Super Bowl cette année-là. Je pense que les gens en Nouvelle-Orléans tentent encore de s'en remettre de celle-là. Ouais.
Et Greg, en passant, maintenant, si tu réussis un catch comme celui de Dez Bryant, même si le ballon bouge un petit peu, mais quand tu arrives au sol, tu as le ballon dans tes mains, maintenant, c'est considéré comme un attrapé. Donc, heureux. S'il y a une bonne affaire là-dedans, Greg, c'est que ce jeu-là a fait en sorte qu'au moins, on a pu clarifier ce règlement-là.
Ouais, c'est brise-cœur un peu. Tu fais bien de le dire. On est fiers de toi, Richard, que tu te sois amélioré là-dedans. Puis c'est pas parce que tu as gagné 5 Super Bowls que ça fait moins mal, des éliminations comme ça. Ouais. Parle-moi-en donc dans les dernières saisons. Mais ça, ce sera un débat pour un autre jour. Tu voulais parler de Ivan Demidov.
Oui, oui.
Très brièvement. Écoute. Tu te poses une question existentielle dans son cas.
Oui, écoute, je te l'ai envoyé la question, puis là, je m'en souviens plus. C'était quoi déjà? Écoute, à mon âge, Greg, ça arrive. T'envoies un courriel, puis c'est plus ce que t'as écrit.
Est-ce que Ivan Demidov pourrait connaître une saison historique?
Ah, voilà. Quelle bonne question, Greg, que tu me poses à l'instant.
Ça me fait plaisir. C'est un privilège, Richard.
C'est une excellente question. Écoute, la question m'est venue parce que nos amis du Hockey News, dernièrement, ont dressé une liste des meilleures saisons des 24 ans et moins dans l'histoire du Canadien de Montréal. C'est très intéressant. J'aurais aimé ça avoir pensé à ça en premier, mais je vais donner le crédit à nos collègues du Hockey News qui ont pensé en premier. Très, très, très intéressant, Greg, parce que on regarde la liste, là. Le premier en haut, je pense pas que Demidov va faire ça cette année, là. C'est Guy Lafleur à 24 ans. Demidov va pas 24 ans, évidemment. Il y en a 19. Mais à 24 ans, Guy a fait 125 points en 75-76. Ça n'arrivera pas à Demidov, c'est pas ça que je dis. Mais je descends en bas de la liste. Puis tu sais, c'est intéressant parce que le joueur de moins de 24 ans qui est dans ce groupe-là, qui a fait, entre guillemets, la moins bonne saison, parce que là, il y a des 125 points, puis des 119 points, puis tout ça, mais tu descends en bas, là, c'est Steve Shott, à 23 ans, qui a fait 79. Écoute, est-ce que Demidov peut viser 79 chez le Canadien de Montréal à sa deuxième année? Puis tu sais, même deuxième année, on s'entend que c'est pas une année complète qu'il a joué l'an passé. Il est arrivé complètement à la fin. Probablement que c'est très, très optimiste de penser qu'il pourrait arriver à ce chiffre-là. Mais pourquoi je t'en parle, Greg? C'est parce que on s'est parlé souvent de ça. Ce que j'appellerais le biais favorable. Biais, B-I-A-I-S. C'est-à-dire que quand tu as une direction, souvent qu'il va repêcher un joueur très haut, on va très, très souvent donner toutes les chances de succès à ce joueur-là. Alors moi, je m'attends à ce que Demidov, qui a été évidemment un choix de premier tour du Canadien, qui a été un cinquième total, je m'attends à ce que Demidov ait absolument toutes les opportunités de se faire valoir. Je pense pas qu'il va aller chercher 79 points, Greg, ça serait assez renversant s'il faisait ça tout de suite maintenant à, je l'ai dit, 19 ans, 20 ans en décembre, ça serait quelque chose, mais je pense qu'on va le placer dans une situation certainement pour que lui obtienne beaucoup, beaucoup de succès. Tu sais, des fois, tu dis, OK, on prend notre temps avec un jeune joueur, ah, il va sauter des matchs, on va couper ses minutes. Regarde ce qu'il avait avec Lane Hudson l'an passé. Tu sais, on a donné toutes les opportunités à Lane Hutson, puis de toute évidence, Lane Hutson a saisi les opportunités. Alors,
Exact.
je pense que Demidov aura aussi ces occasions-là. Maintenant, Greg, c'est à voir s'il va pouvoir les saisir.
C'était quoi déjà le débat qu'on avait eu, Oli, ensemble sur le over-under des points de Demidov pour cette année? C'était-tu comme 65?
65.
Ouais. 65 points. Alors, si je te pose la question aujourd'hui, Richard, et probablement que tu vas vouloir te référer à ta chronique du je sais pas quelle date en 2022. Mais en ce 31 juillet, là,
oui.
Tu dis over-under 65 points pour Ivan Demidov. Tu y vas de quel bord?
Écoute, je vais y aller under, mais pas ben loin dans ton under. Parce que, tu sais, honnêtement, là, 65, ça serait vraiment une bonne, très, 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 très bonne saison. Peut-être même au-delà des attentes. Là, je ne sais même pas si la direction du Canadien de Montréal s'imagine que Demidov va faire 65 points. Mais tu sais, je te dirais que dans un contexte favorable, et comme je viens de le dire, on va le placer en situation de succès, tu sais, quelque chose comme 55 points, je pense que non seulement c'est envisageable pour Demidov, mais en plus, ce serait vraiment très bon. T'sais, si lui arrive là, à 20 ans, il va avoir 20 ans, comme je l'ai mentionné en décembre, si lui est capable de donner ça là, présentement, 50-55, là, ça serait vraiment bon. Alors, Greg, si c'est en haut de 65, on va être pas loin de ce que je viens de dire. On va s'approcher d'une saison historique pour un joueur de 24 ans et moins. Et ça, là, regarde, je t'ai nommé une coupe de noms. C'est pas des deux pics qui sont dans cette liste-là. Si lui s'approche de ça, ça va être exceptionnel.
Vois-tu, je suis allé voir sur la plateforme Bet99 pour voir les cotes des preneurs au livre. Tu sais, habituellement, ils sont pas trop, trop loin de la vérité, eux autres. Et Ivan Demidov, la cote pour le Calder est à 2,95.
Mm-hmm.
Sais-tu qui est le deuxième avec quelle cote?
À quelle cote? Écoute, je vais te le. Je, non, ça, je le saurais pas. Le deuxième, ça serait. Ben, écoute, il faut que ça soit.
C'est Zeev Bouyim.
Vas-y donc.
C'est Zeev Bouyim, le défenseur du Wild du Minnesota, avec une cote de 9,75. Jimmy Snuggerud est à 10,5 avec les Blues de Saint-Louis. Michael Misa par la suite. Ryan Leonard, Zane Parekh. Qui est blessé, malheureusement aussi. Là.
Ah, mais là, l'écart de cote entre le premier et le deuxième, c'est combien, là?
2,95 à 9,5.
Eh hey boy, OK. C'est un écart. Je connais moins ça que toi, là. Je ne suis pas très, très dans les paris sportifs, mais ça me semble assez considérable comme écart.
C'est énorme comme écart, puis c'est pour ça que je fais exprès de te le mentionner. Là. C'est énorme comme cote. Alors, il est vraiment, vraiment, vraiment favori. Pour remporter le Calder maintenant, mais il n'y a pas le fameux over-under des points. Ça arrivera peut-être un petit peu plus tard cet été. Là. Ouais. J'ai hâte de voir effectivement cette saison-là que Demidov va connaître. Pour moi, peut-être se situer dans le 60 points, là, surtout avec un Patrick Laine en santé, avec du temps sur le premier avantage numérique. Quand tu regardes ce que Lane Hutson a fait l'an dernier, d'après moi, il va en avoir pas mal le début que tu vas avoir d'un côté ou de l'autre de la fiche sur le but. Hudson Demidov. Ça peut être Demidov qui compte, Hudson une passe, ou les deux qui ont une passe sur le but d'un autre, Laine par exemple. Je pense que ça va ressembler pas mal à ça.
Et tu parles du Calder, Greg. Quel exploit ce serait? Parce que souviens-toi, il y a un an, là, à cette date, là, on était tous en train de chercher. Ouais, c'est qui le dernier? Du Canadien de Montréal qui a gagné le Calder, il fallait retourner, c'est quoi, l'an 71, c'était Ken Dryden, 72?
Oui, exactement.
C'était loin, là. C'était très, très loin derrière. Et là, tu viens de parler de Lane Hutson, évidemment, on sait ce qui est arrivé. Alors, écoute, s'il fallait que Demidov soit... tu sais, honnêtement, déjà, s'il est dans cette course-là, Greg, pour moi, tu sais, s'il est dans la course du Calder, même s'il ne gagne pas, s'il est dans la course... et qui va chercher 50-55 points, comme je te mentionnais, pour moi, c'est déjà une excellente saison. Parce qu'encore une fois, il faut bien le dire, là, c'est, techniquement, on va dire, ouais, OK, c'est sa deuxième année, mais il a joué deux games l'an passé. Fait que, on ne peut pas dire qu'il y a une saison en entier derrière la cravate.
Non.
C'est encore un joueur qui est très, très vert. Puis on l'a vu en série, Greg aussi. Là. En série, ça a été plus difficile pour Demidov.
Mais plus ça avançait, plus on le sentait à l'aise. Son deuxième match a été plus difficile, mais son premier, Tu sais, probablement que Martin Saint-Louis il a donné une petite tape dans le dos puis il a dit have fun, kid. Tu sais, ça devait ressembler à ça à peu près, le speech de motivation, là, tu sais. Mets-nous pas dans la boîte, puis profite de ton match. Mais écoute, Richard, t'étais sur place à ce match-là. Comment ne pas se rappeler? Moi, je vais me rappeler de ça toute ma vie. Là, de l'ambiance qu'on a eue au premier match de Demidov. Ces points qu'il a fait, son premier but, c'était complètement exceptionnel.
Ouais. Ben, c'est ça. Là, ce soir-là, on a vu les habiletés, on a vu le talent. Là, maintenant, il faut voir le reste. Je pense que, comme j'ai mentionné, on a eu... Moi, j'ai trouvé que ça a été plus difficile pour lui en série. C'est une chose d'arriver comme ça vers la fin. Tu as joué contre Chicago. Chicago n'était plus là-dedans du tout. L'enjeu pour les Blackhawks n'était pas super élevé. Maintenant, d'arriver immédiatement, en même temps que tout le monde, en septembre, en octobre, quand ça va se mettre à compter... Et d'être capable de jouer, tu sais, ce que Martin Saint-Louis, pour parler de lui, parce que tu viens de parler de lui, mais tu sais, ce que Martin Saint-Louis appelle la fameuse game de 200 pieds. Tu sais, les jeunes joueurs, Greg, talentueux comme ça, c'est la plus grande mesure d'adaptation, surtout quand tu viens d'un autre circuit. C'est que là, tu t'aperçois que, OK, à chaque soir, je dois refaire la main. Là, OK, je viens de bien jouer ce soir, mais là, je dois refaire ça demain. Puis là, l'autre match d'après et l'autre d'après. C'est cette réalité-là pour les jeunes joueurs, c'est la plus difficile avec laquelle composer. Alors moi, j'ai hâte de le voir aller vraiment pour un paquet de raisons, mais j'ai hâte de le voir aller là. Tu sais, quand on va arriver dans les mois plus difficiles, tu sais, janvier, février, là, quand ça se met à se corser un petit peu, souviens-toi, Lane Hudson a frappé un petit mur à ce moment-là. Tu sais, c'était pas la même charge de travail, il était pas habitué.
Exact. Après ça,
c'est bien rattrapé après. Mais j'ai hâte de voir placé dans cette situation-là, Demidov, comment il va réagir, ça va peut-être nous donner une idée sur la suite des choses. Écoute, je peux pas prétendre pas du tout, du tout, du tout, du tout être un expert en tennis. J'ai eu de la misère à regarder un match, l'emploi du temps, des choses comme ça. Mais j'ai été un petit peu, je te dirais, Greg, sidéré au cours des... Je sais pas, des derniers mois, des dernières années, à la presse, nous, souvent, quand il était question d'Eugénie Bouchard, les courriels qu'on recevait, allaient faire que c'était une ci, puis une ça, puis une honte, puis ci, puis ça, puis tu sais, je comprenais jamais vraiment d'où ça venait, je le comprends toujours pas. Et je suis content de voir qu'enfin, c'est une sortie qui, tu sais, qu'elle méritait. Tu sais, je ne sais pas d'où cette espèce de vitriol est venue. Est-ce que des gens jalousaient peut-être son succès? Je ne sais pas. Mais ce qu'elle a accompli, puis encore une fois, Greg, je te dis ça de l'extérieur, je ne suis pas du tout un expert en tennis, mais de la manière que moi je le vois, elle est allée à un sommet où bien peu de joueuses canadiennes, de joueurs canadiens ont pu atteindre. Tu sais, quand tu y penses, là, c'est une carrière qui est absolument phénoménale. Et on ne parle même pas des sacrifices, on ne parle même pas de la pression. Tu sais, Greg, au hockey, c'est une mauvaise game. Tu as comme 18 gars avec toi qui peuvent t'aider, qui peuvent t'appuyer, puis finalement, ça paraîtrait peut-être pas tant que ça. Au tennis, si t'as une mauvaise game, là, t'es tout seul. Là. C'est... Puis là, tout le monde te voit, puis tout le monde le voit bien que t'as une mauvaise game. Puis tu peux pas en avoir trop souvent des mauvaises games parce que là, tu descends au classement. Et là, ben les bourses sont peut-être pas les mêmes, puis tu fais peut-être pas des tournois importants. Puis tu sais, à un moment donné, il y a une réalité économique. Les gens qui se demandaient, ouais, elle passe pas mal de temps sur Instagram. Ben tu sais, c'est ça aussi, c'est cette réalité économique parce que pour beaucoup d'athlètes maintenant, ce sont des manières de monnayer une carrière. Puis c'est bien correct. C'est
ben oui, puis tu sais, Alexandre Pratt a écrit un très beau papier. Je sais pas s'il faut dire papier ou écran, mais en tout cas, il a écrit dans Presse Plus.
On comprend.
Celui que tu surnommes affectueusement le Pratter, bien sûr, qui a écrit ce sujet-là. T'sais. C'est nous qui choisissons comment on se souvient d'un athlète. José Théodore, par exemple, et ça, c'est lui qui le nomme en exemple, là, notamment. Là, José Théodore a amené des moments formidables aux Canadiens. Mais on se souvient de ça ou de la fin de sa carrière? Est-ce qu'on se souvient de ce que Jacques Villeneuve a remporté chez Williams ou encore de son passage chez BAR? Puis en passant, BAR, c'est, ça a fini par devenir Mercedes qu'on voit aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, quand même pas pire là, comme start-up. Que, tu comprends ce que je veux dire? Alors, la narrative qu'on se donne, il faut juste célébrer le succès de nos athlètes.
Oui, et je pense aussi que particulièrement ce sport-là, le tennis, c'est un sport particulièrement différent parce que ça implique là, des déplacements, puis des heures d'entraînement, puis des coups, puis des... souvent, c'est des gens qui ne font que ça. Tu peux te ramasser à l'âge de 14 ans, 15 ans, qu'il faut que tu t'entraînes X nombre d'heures par semaine pendant que tes amis sont au restaurant à célébrer telle affaire, puis à faire le party dans le sous-sol de tel parent. Mais toi, tu n'as pas le temps de faire ça. T'sais, puis, encore une fois, ce sont des choix que les athlètes font. Puis, c'est eux, elles, qui décident de ça. Mais moi, je pense qu'il faut célébrer plutôt que critiquer, plutôt que encore moins que d'aller sur les réseaux sociaux puis d'insulter, ce qui fait aucun sens à mes yeux.
Ce qui n'amène pas quelque chose de constructif et de positif. Mais dans tout ça, Richard, et je veux saluer notre auditeur Bookie qui nous dit dans le cas de Jacques Villeneuve, par contre, on peut critiquer la sortie de son album.
C'est oui, on peut le faire, effectivement. Mais là, tu vois, moi, j'aime mieux me souvenir de son année de championnat que de son album.
Absolument, moi aussi. Richard, ça a été, encore une fois, écoute, ma foi, mémorable comme entretien. Et on se refait ça très bientôt, mon cher ami.
Avec grand plaisir, Greg. Salut bien.
Salut, Richard. D'ailleurs, Richard qui sera à la barre de l'émission La Game dès lundi.